Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante.
Und Femme. Und Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney. Et aujourd'hui, nous évoquerons la 8e rencontre internationale sur le thème Femmes et Santé qui vient d'avoir lieu au mois de mars dernier à Rio de Janeiro, au Brésil. Et avec nous en direct, Rina Nissim, Marie-Jo Glardon et Edmé Olagné. Bonjour à tout le monde et Viviane avec nous. Mais le temps de s'installer, de prendre nos marques, eh bien partons au Brésil. En musique.
E a terra tremeu, 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 tremeu. O céu mudou de cor, de cor. Jamaica, Salvador, yeah, yeah.
Uba, 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 uba. We inviting you, we inviting you, we expecting you. We invite you, we expect you. Sabalança, sabalança, sabalança.
Seu grito me orgulhou. Sou filha do vencedor que nunca me esquecer. Ofa na mão o protegeu. A paz da cor do céu, ele em mim, ele sou eu, conta as condão que me envolveu, e sua flecha percorreu, guiada pelas mãos de Deus. E o mal do mundo estremeceu, guerreiro negro, que olorum, que olorum, que olorum nos deu. Que olorum, que olorum, que olorum nos deu.
Esse digo, não digo. Esse T de tensão, esse A de amor é sentido. Qualquer coisa no ar, esse desassossego. Qualquer coisa no ar, esse desassossego. Um recado falado, um bilhete guardado, um segredo. Um desejo no lábio, um carinho guardado, um azedo. Qualquer coisa no ar, esse desassossego. Qualquer coisa no ar, esse desassossego. No metrô da saudade seremos fiéis passageiros. Um agosto molhado, um dezembro passado, um janeiro, qualquer coisa no ar. Esse desassossego, qualquer coisa no ar. Esse desassossego cessará finalmente entre nós. Esse mito, não minto, esse de ilusão, esse T de tesão infinito. Qualquer coisa no ar, esse desassossego, qualquer coisa no ar. Esse desassossego.
C'est Maria Bethânia qui ouvre le feu de la discussion de notre voyage au Brésil. Il faut dire qu'effectivement, dans Remue Ménage et dans Haute Femme, on entretient des liens assez particuliers avec le Brésil depuis toujours. Et d'ailleurs, quand on discute femmes et santé, rencontre internationale, Brésil, eh bien, il y a aussi des liens très particuliers. Alors commençons d'abord par représenter, parce que je crois que vous les connaissez déjà, les femmes qui sont avec nous aujourd'hui. Rina Nissim, vous, comme on disait tout à l'heure, quand elle est arrivée dans le studio, elle est presque une locataire permanente de Honte Femme. Rina, vous la connaissez, c'est Espace Femmes International. Et c'est beaucoup d'autres choses aussi, mais c'est à ce titre-là que Rina, tu es allée donc à Rio à cette 8e rencontre Femmes et Santé avec Marie-Jo Glardon qui va arriver sous peu dans notre studio. Et puis avec nous aujourd'hui aussi Edmé Olanier. Edmé, toi tu es allée plutôt au nom de l'Université de Genève dans le cadre des études de genre femmes pour animer un atelier sur le thème santé et travail lors de cette 8e rencontre. On parlera un peu plus en détail, mais aussi comment ça se fait que cette rencontre universitaire TFI s'est faite pour aller jusqu'à Rio, la non dit-elle, on verra bien quand même. Mais enfin, d'abord, ces liens alors si forts qui unissent quand on parle de femmes, quand on parle santé et femmes entre le Brésil et Genève, Rina, en ce qui te concerne. Moi, je sais en ce qui me concerne, parce qu'un bout de mon cœur est attaché au Brésil et avec les femmes brésiliennes avec qui j'ai bossé, mais en matière de santé.
C'est vrai, il y a des liens particuliers entre Genève et le mouvement des femmes au Brésil. En fait, il y en a plusieurs. D'une part, parmi ces conférences donc, qui ont lieu tous les 3 ans, une des conférences a eu lieu à Genève en 1981. Et 2 années plus tard, il y avait eu un programme d'échange organisé par ISIS, par lequel Marie-José Araújo du groupe de São Paulo, aujourd'hui Ambulatoria, à l'époque Collectif Sexualité et Santé, était venue en stage au dispensaire des femmes. Et donc, c'est elle, à son retour, qui a lancé ce premier centre de santé de femmes au Brésil, qui était d'ailleurs un centre pilote pour toute l'Amérique latine. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez... C'est assez amusant. De plus, SOS Corpo, qui est le deuxième groupe très fort, parmi les personnes qui sont à l'origine, il y a Gigi, qui est d'origine suisse. Et puis enfin, il y a IDAC, qui est un autre groupe qui se trouve également à Rio, dont les origines étaient à Genève, quand Rosiska Darcy était réfugiée en Suisse.
Alors, beaucoup de raisons de vous donner envie d'aller à Rio, mais ce n'était bien évidemment pas quand même la raison principale. Alors, cette 8e rencontre internationale, comment s'est créée cette envie de se réunir pour discuter femmes et santé? Et puis, les 7 autres conférences, qui réunissaient-elles? C'était fait à l'initiative de qui? Il faut peut-être commencer par un petit historique.
Peut-être, oui. Les rencontres femmes et santé sont des rencontres qui sont organisées par le mouvement de femmes autonomes, ce qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Et ça contraste complètement avec les conférences de l'ONU, ces grandes conférences qui ont lieu à Nairobi, à Pékin, etc. Donc ça, c'est des conférences qui sont organisées par le mouvement de femmes autonomes. La première a eu lieu à Rome, c'était en 74. On appelait ça des conférences internationales, mais à l'époque, en fait, c'était des conférences européennes. Et puis, il y avait des Américaines et puis des femmes d'Australie qui passaient par là. Et c'est seulement depuis 1981, donc depuis que ça a eu lieu à Genève, que ce sont des vraies conférences internationales, au sens qu'on cherche des fonds chaque fois pour inviter des femmes de toutes les parties du monde et permettre que ce soit vraiment un échange international. Et ça a été quelque chose d'assez fort, entre autres pour nous faire comprendre les différences de thèmes qu'on pouvait avoir ou les différences d'approches qu'on pouvait avoir par rapport à la reproduction, par exemple. Hein.
Mais ce sont des femmes qui travaillent dans le domaine de la santé ou qui ont une action dans le domaine de la santé. Ou est-ce que ce thème femme et santé est sorti parce qu'effectivement, le thème du corps et tout ce qui est lié au corps de la femme, c'est-à-dire entre autres les grossesses, désirées ou non, l'avortement, la contraception, ont toujours été des thèmes du mouvement?
Les deux, c'est-à-dire que les groupes femmes et santé du départ n'étaient pas formés de professionnels, étaient formés en fait de consommatrices de la santé, on peut dire. Hein. Mais aujourd'hui, il y a en fait les deux. On voit des participantes qui viennent de groupes de base féministes, d'autres participantes qui peut-être travaillent dans une ONG qui est très engagée sur les thèmes de la santé des femmes. Il y a aussi des chercheuses qui viennent, donc il y a un mélange.
Mais il y a toujours cette couleur féministe, elle est toujours présente.
Parce que l'organisation reste dans les mains de groupes féministes autonomes.
Donc en même temps qu'il y a ces conférences, il y a un réseau Femmes et Santé qui fonctionne entre les conférences.
Voilà, il y a un réseau Femmes et Santé qui fonctionne entre les conférences avec des groupes régionaux qui sont reconnus pour faire jouer le rôle de réseau dans leur région. Par exemple, ISIS International à Santiago de Chile. Il y en a plusieurs de groupes comme ça qui jouent ce rôle. Et en fait, chaque conférence est organisée par un groupe qui ose se lancer. Il faut avoir un certain culot et le soutien donc de tous les réseaux et de tous les groupes qui ont précédemment organisé d'autres rencontres du même genre. On crée un espèce de comité de soutien et on se lance.
Alors cette fois-ci, donc cette année, c'était Rio, au Brésil. Beaucoup de femmes sont venues.
Alors, il y a eu 650 inscrites, il y a un petit peu moins de participantes parce que, bien sûr, beaucoup espéraient avoir un billet payé, puis on n'a pas pu payer autant de billets que les femmes espéraient.
650 venues du monde entier.
Oui.
Quelles étaient les nations les plus représentées, j'imagine, bien sûr, l'Amérique du Sud devait être présente.
Non, parce qu'il y avait un système de quotas, en fait. Hein. Donc, on en est aux quotas, nous aussi. Hein. Donc, il y avait 70...
Pour barricader qui? Si ce n'est pas les hommes.
Les femmes d'Amérique du Nord, qui étaient plus près et plus fortunées, qui auraient pu se payer des billets facilement. Et puis même pour les Brésiliennes, d'autre part. Parce que si on ne faisait pas des limites, ben, on aurait été par plein de Brésiliennes. Donc en fait, il y avait, je crois, plus de 72 pays représentés, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment énorme comme représentation. Mais alors justement, très très soigné pour qu'il y ait des groupes de femmes vraiment de toutes sortes de pays différents et de régions différentes.
Alors quel est le groupe qui vous a flashé le plus, Rina Waitmey?
Bon, bah, d'abord, tout honneur au collectif Sexualidad y Saúde, qui est donc le groupe qui a invité, donc c'est le groupe principal qui est à l'origine de cette rencontre, bien sûr avec le soutien du réseau national des Brésiliens, mais je crois qu'il faut quand même leur donner cet honneur. C'est non seulement une charge énorme, et c'est une charge pendant 2 ans, mais c'est aussi un grand moment d'excitation, je veux dire, de se trouver dans cette position. J'en sais quelque chose pour l'avoir fait.
Ouais, moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est effectivement ces femmes du monde entier, avec beaucoup d'Indiennes, d'Inde qui étaient présentes, et ça, c'était assez extraordinaire parce que l'Inde, c'est loin du Brésil, donc elles ont pris les moyens de venir, et là, je crois qu'il y a. Il y avait différents réseaux, différents en Inde qui étaient présents. Donc c'était aussi l'occasion de se retrouver dans un pays pour qu'il se passe des choses, peut-être même au sein d'un pays lui-même, quoi. Donc moi, j'étais frappée par la représentation des Indiennes. Et puis, bon, une forte représentation des Africaines, aussi bien francophones qu'anglophones. Voilà.
Et puis, alors, il y avait l'organisation sérieuse, les rencontres, les débats, les échanges, mais tout ça se passe dans quel type d'atmosphère? Essayez de voir nous faire un peu partager le quotidien de ces rencontres.
Moi, je veux bien réagir parce qu'il se trouve que 6 mois auparavant, j'étais à une rencontre de recherche féministe francophone au Québec, organisée par l'Université Laval, qui était une rencontre sérieuse, alors très, très, très importante, avec des thèmes tous aussi intéressants les uns que les autres, mais qui restait assez sérieuse et sans, comment je pourrais dire, sans chaleur, sans amour, sans couleur. Enfin, c'est un peu dur parce que on était bien reçus au Canada, et en allant à cette rencontre au Brésil, pour moi l'ambiance était complètement différente. C'est-à-dire qu'il y avait plein de sourires, il y avait plein d'embrassades, il y avait plein de découvertes, il y avait Ouais, toute cette énergie collective qui était très présente dans l'air et qui faisait qu'on sentait une solidarité de toutes ces femmes par rapport à un projet de santé dans le monde entier.
Et puis pour donner le cadre, c'est un hôtel 5 étoiles, voilà. L'hôtel Gloria au bord de la mer à Rio, qu'on nous a accordé au prix d'un 3 étoiles, envahi par des centaines de femmes du monde entier. Qui ont complètement changé l'ambiance d'un hôtel qui est habituellement un hôtel plutôt luxe. Mais en fait, c'est vieux luxe. Hein, donc, c'est luxe un peu défraîchi. C'est quelque chose de tout à fait charmant.
Alors, Marie-Jo Glardon est arrivée. On va tout de suite là. Elle a peine le temps de s'asseoir. Marie-Jo Glardon, qui est donc aussi est allée au Brésil à la rencontre Femmes et Santé au nom de Espace Femmes International. Alors, toi, quels sont les moments de folie, les moments qui t'ont flashé? Ou les gens qui t'ont, les femmes qui t'ont flashé?
Bon, le plus grand moment, c'était quand même la danse de la première soirée récréative. Alors, s'il s'agit de folie, là, c'était très fou. C'était très fou. Il y avait un orchestre de femmes qui avait été invité, qui faisait de la musique brésilienne. Alors, évidemment, au Brésil, authentique, en face du pain de sucre, avec la caipirinha, c'est un apéritif.
Délicieux. Citron vert.
Fait avec du citron vert et puis l'eau de vie de canne à sucre. Alors, donc, on était dans la couleur locale, au moins ce soir-là. Moi, je regrette, je n'ai pas beaucoup rencontré les Brésiliennes. Il y en avait 200 sur 600, je crois, à peu près, hein, qui étaient brésiliennes. Celle-ci, je n'ai pas beaucoup parlé avec elles à cause de la langue. Et mais au moins, dans la soirée, on les a... c'est très important de rencontrer les gens aussi en dansant et par les gestes et par le rythme et puis pas toujours en parlant parce que le reste du temps évidemment c'était beaucoup beaucoup de discours dans toutes les langues.
Alors ces discussions, on y viendra, elles étaient organisées par thème, donc il y avait des ateliers par thème où certains, les sujets étaient plus approfondis, mais j'imagine qu'en même temps et parallèlement et peut-être surtout il y a un échange d'informations entre ce qui se passe d'un groupe femme santé à l'autre. Alors, quel est le scoop que vous nous avez ramené?
Peut-être ça vaut la peine d'abord de poser le cadre un petit peu de comment la conférence est organisée, c'est-à-dire qu'on partait du général pour aller vers le particulier. Donc le thème étant pauvreté et qualité de vie, on a commencé en fait par une grande plénière sur la globalisation, et sur le conservatisme et ses effets sur la santé. Donc ça, je crois qu'il faut le dire, c'était quand même un moment assez fort, avec donc Gita Sen d'Inde qui a lancé ce concept du fondamentalisme du marché, suivi par Francis Kissling de Catholic for Free Choice aux États-Unis, qui a fait carrément un scandale, qui a été repris à la télévision tellement ça leur a plu, en disant ni plus ni moins que le pape est un danger pour la santé des femmes. Donc ça, je pense, c'était quand même un moment très très fort, et Francis Kissling est une excellente oratrice et elle a réussi à emmener tout son monde avec elle. Et je crois que cette ouverture a vraiment été un lancement très solide pour la rencontre. Et sur les jours suivants, donc, il y avait plusieurs discussions le matin, donc en allant du général vers le particulier. Et l'après-midi, tout le monde discutait des mêmes thèmes en sous-groupes. Et il y avait 10 sous-groupes. Par langue, certains interlangues avec traduction. Et pour ce qui est des rencontres, donc entre 5 et 7, ou même 5 et 23 heures parfois, il y avait toutes sortes d'ateliers qui étaient proposés sur tous les sujets possibles et imaginables, des vidéos, et tout ce qui avait été oublié, qui n'était pas au programme, se surajoutait. Donc il y avait des espèces de feuilles de papier qui se collaient sur l'ascenseur, et l'une ou l'autre annonçait que dans la salle X, à l'heure X, il y avait encore quelque chose. Donc c'est là les moments, disons, d'échange moins formel et moins organisé que les grands débats. Donc tout ça, c'était une fourmilière assez intense, hein, avec beaucoup de travail finalement, parce qu'il y avait des rapporteuses qui devaient, à la fin de chaque journée, synthétiser tout ce qui s'était dit entre les différents sous-groupes, et puis synthétiser du premier jour au deuxième jour, du deuxième jour au troisième jour, pour terminer par cette fameuse déclaration de Rio, qui a été terminée à travers la nuit, et traduite entre 6h du matin et 10h du matin à toute vitesse, pour que toutes les participantes puissent l'avoir dans les mains à 10h à la plénière de clôture. Voilà un petit peu le cadre, disons, de l'organisation de cette rencontre, qu'il faut le dire, était vraiment très bien organisée.
Alors avant qu'on se mette au travail, je vous propose qu'on se mette encore un petit peu dans l'âme de la musique brésilienne. Ça, c'est Margarete Menezes, une jeune chanteuse brésilienne. Il n'y avait pas que non plus du travail, ça on va y entrer de pied ferme d'ici quelques instants, mais il y avait aussi du théâtre de rue, non, entre autres par nos copines du SOS Corpo et de Recif, non, Rina et Marie-Jo.
Oui, c'est bien ça, donc les Folles Alliées couleur lilas ont fait l'ouverture en fait de la rencontre. Tout le monde était dans le hall et tout le monde se pressait vers cette porte et ne comprenait pas pourquoi cette porte ne s'ouvrait pas. On était déjà en retard et la porte ne s'ouvrait pas. Et puis tout d'un coup, elles sont arrivées en fait parmi nous avec leur déguisement, visage blanc, etc. Et puis elles ont fait une petite scène là, au milieu de la foule dans le couloir, dans laquelle des ouvrières et un ouvrier revendiquent par rapport à leur patron. Et le patron, il est symbolisé par un producteur de voitures. Il a des petits camions qui serrent tout serré contre lui. Et puis, il fait un petit plus à l'ouvrier masculin. Puis bon, parce que l'ouvrier masculin est un peu revendicatif. Alors finalement, il lui donne un petit camion. Mais alors, il faut vraiment se l'arracher du cœur. Puis alors, du coup, il y a les ouvrières féminines qui se disent « Enfin, c'est quoi cette histoire? Pourquoi pas nous ?» Finalement, elles tempestent, elles font tant de bruit qu'ils donnent à chacune un petit camion. Puis à ce moment-là, elles coupent la scène, qu'elles font toujours en quatre langues, hein, ce qui est quand même un exercice assez intéressant. Et puis elles se tournent vers la foule et puis elles disent « Mais enfin, est-ce que chez vous, les luttes, c'est si facile? Est-ce que vous y arrivez si facilement chez vous? Est-ce qu'en Afrique, c'est si facile? Est-ce qu'en Asie, c'est si facile ?» Et puis avec ce questionnement, la porte s'ouvre et elle nous entraîne dans la salle pour aller étudier ensemble et voir si c'est vrai qu'on y arrive comme ça facilement.
Alors, c'est dans la salle, il y avait cette grande conférence. Rina, tu en as un peu parlé. Globalisation et santé de la femme, conservatisme et politique d'ajustement. Et donc, ce nouveau concept, le fondamentalisme du marché. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept ? Quel soupir.
Ah oui, alors moi, je dois dire que l'économie mondiale, c'est vraiment trop pour moi. Mais c'est tellement important, on ne peut pas ne pas en parler. Et puis, c'est vrai que les femmes ne sont pas formées en économie mondiale, encore moins que les hommes, si c'est possible. Alors, Gita Sen, c'est quelqu'un de remarquable, c'est une économiste de haut vol. Donc, elle nous brosse un tableau de tout ce qui ne va pas. Des ajustements structurels, du poids de la dette. Et puis, elle arrive avec une nouvelle formulation, c'est toujours bien, parce que, je veux dire, c'est l'éternel problème, mais c'est toujours bien de le reformuler autrement. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le marché, c'est une idéologie, complètement, parce que ça pourrait très bien être autrement. Elle dit que c'est dirigé complètement... disons qu'en tant qu'idéologie, finalement, il y a une espèce de fondamentalisme, puisque finalement, c'est la répétition de la loi du profit comme étant la seule manière de s'en sortir aujourd'hui dans l'économie mondiale. Donc, elle le dénonce comme un mythe. Et puis, elle montre tout le caractère sacré et quasi religieux de l'ensemble des théories économiques qui nous oppriment directement. Parce qu'évidemment, ensuite, on peut bien voir le lien avec la santé, puisque on sait que toutes les dépenses de santé sont diminuées à peu près dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on diminue les dépenses de santé, d'éducation, et les besoins sociaux minimum, les réponses aux besoins sociaux minimum des gens au profit de on ne sait pas quoi, une espèce d'empire de l'argent qui crée de l'argent, puis qui ne crée absolument aucune richesse ni aucun bien pour les gens qui en ont besoin. Donc, je veux dire, cette dénonciation, c'est la première étape. On ne peut pas parler de la santé des femmes au niveau mondial sans aborder ce problème de fond.
Donc, en fait, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de dire que les programmes d'ajustement structurel augmentent la pauvreté et c'est à travers cette paupérisation que, de fait, la santé des femmes est atteinte.
Bah, évidemment.
C'est la donnée de base aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, les budgets ont été tellement rétrécis que finalement, on se retourne vers les ONG et on leur demande de prendre en charge des choses qui étaient prises en charge auparavant par l'État. Par exemple, les campagnes de vaccination, qui sont des choses qui, pour être efficaces, doivent être menées au niveau tout à fait national, si ce n'est pas régional. Et maintenant, on remet ça...
Elles sont privatisées.
Voilà, tout est privatisé. C'est remis dans les mains des ONG qui n'ont pas forcément...
Dans la plus complète anarchie.
Souvent.
Parce qu'au plus, ce n'est pas organisé. Alors, bon, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que cette conférence, elle voulait se démarquer par rapport, disons, au discours habituel des Nations Unies qui a quand même repris la notion des droits sexuels, des droits de la reproduction. C'est des notions, on continue de se bagarrer pour ça, c'est clair, c'est un droit des femmes. Mais ne pas oublier, et c'était ça la première journée, ne pas oublier qu'on ne peut pas travailler pour ses droits si on travaille dans des populations avec des femmes qui n'ont pas le minimum, qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas élever leur famille. Donc déjà, c'est sur elles que reposent en général les besoins primaires de leur famille, qui n'ont rien. Donc évidemment, la pauvreté, c'est pas avoir à manger, c'est pas avoir d'eau potable, c'est pas avoir de quoi subvenir aux besoins. C'est la première cause des maladies, évidemment, les plus importantes. On ne peut pas parler de santé si on ne parle pas de la pauvreté.
Mais en même temps, ce qu'on voit entre autres dans nos pays dits riches ou occidentaux, c'est que ce fondamentalisme du marché, il s'accompagne aussi d'un fondamentalisme plus classique, enfin le terme plus classique du fondamentalisme, un fondamentalisme religieux ou institutionnel, qui de fait tend par exemple à interdire l'avortement. On l'a vu en Europe, on le voit bien aux États-Unis, où finalement la campagne des lobbies anti-avortement a fini par interdire la pilule RU 485. Donc on voit qu'en même temps
86,
ouais. je l'ai réduit d'une année. Donc le RU 486 a été interdit à la vente aux États-Unis. Le fabricant a arrêté de la fabriquer. Donc on voit qu'en même temps, il y a aussi des actions directement contre les femmes et contre la santé des femmes autour de cette économie de marché. Donc c'est pas seulement la pauvreté, mais c'est aussi une nouvelle idéologie. Et j'entendais qu'au Nicaragua, avec l'arrivée de la droite au pouvoir, on est en train de supprimer le ministère de la femme pour le remplacer par un ministère de la famille, avec immédiatement interdiction de l'avortement. Donc on voit aussi que ça, c'est une échéance liée aussi, en tout cas parallèle, avec la mondialisation de l'économie de l'économie de marché.
En tout cas, la répression, oui. Il y aurait pas mal de nuances à faire, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a une différence entre dans la force du combat anti-avortement, par exemple. Il y a une différence entre les pays riches et les pays pauvres. Ça sera beaucoup plus facile. Ouais, c'est là.
Alors, ce sera beaucoup plus facile
d'interdire ou de lutter contre l'avortement dans un pays riche. Parce que finalement, alors que dans un pays pauvre, on va quand même, la première histoire qui se passe, c'est les politiques de population visant absolument à réduire la natalité de toutes les manières.